226 lits. Il y a 10 médecins, 4 internes. Et dans l'activité du service, un service de gériatrie moderne, c'est une offre de soins qui s'organise plus en filière. Donc il y a beaucoup d'activités différentes. Une des activités, c'est des lits identifiés en soins palliatifs, qui répondent d'ailleurs à la promotion faite et les moyens financiers mis par l'État suite aux recommandations de la loi Leonetti. Aujourd'hui, dans la plupart des services de gériatrie, je parle des grands centres hospitaliers, il y a des lits identifiés soins palliatifs avec des moyens dédiés et un financement dédié et sanctuarisé qui garantit, en tout cas année après année, l'avenir on ne le connaît pas, hein. Pas plus que le mourant d'ailleurs, on connaît son avenir. Mais voilà, il y a une certaine garantie, une sécurité qui est donnée à ces moyens dédiés. Qui sont des moyens humains, hein. C'est-à-dire voilà, psychologue, infirmière, voilà. Chaque service fait son choix, mais en tout cas, ce sont des moyens en personnel. Vous avez vu dans l'invitation à cette journée que je suis rédacteur en chef, nouveau rédacteur en chef de la revue Jusqu'à la mort accompagner la vie, qui est une revue qui a 25 ans, qui a beaucoup contribué à rassembler, former à la fois des bénévoles et des professionnels de santé autour de la question des soins palliatifs et surtout de l'accompagnement, avec les questions philosophiques, notamment autour des psychologiques. Voilà. Alors, je suis nouveau rédacteur en chef, j'ai encore commis aucun numéro. On est en train de boucler le numéro de juin la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Et puis, je suis ancien GBUcien, très heureux d'être là. Donc, engagé dans le GBU de Lyon pendant mes études de médecine. Et dans les amis des GBU pendant quelques années après. Voilà. Alors, moi aussi, j'ai un peu retouché le titre. L'accompagnement à la mort, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je connais l'accompagnement en fin de vie. Alors, comment ça se passe sur le terrain, l'accompagnement en fin de vie? Et en effet, je suis d'accord pour placer les enjeux spirituels devant les enjeux éthiques. C'est la moindre des choses dans une journée comme celle-là. Alors, la prise en charge concrète des personnes qui présentent une maladie chronique incurable, grave, ou en tout cas, si ce n'est incurable, au stade terminal, parce que beaucoup de maladies aujourd'hui... La réalité de la maladie aujourd'hui, c'est la maladie chronique. Hein. C'est un changement en 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, on soigne des malades chroniques principalement. Et un certain nombre de ces maladies évoluent à un stade qu'on appelle terminal. Il faut avoir en tête qu'il y a une triade indissociable de principes qui nous conduisent. Cette triade, c'est premièrement le refus de l'obstination déraisonnable. Ce terme, cette terminologie d'obstination déraisonnable dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est une manière de dire c'était dit autrement autrefois. Mais ça me paraît beaucoup plus juste de dire comme ça que de parler d'acharnement. Voilà. Le deuxième point fondamental, c'est la logique de soins palliatifs. Et aujourd'hui, y compris dans des maladies curables, mais à potentiel mortel, on dit que la philosophie des soins palliatifs s'applique dès la prise en charge initiale de ces maladies, et on appelle ça les soins de support. C'est-à-dire une attention aux symptômes pénibles, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Et le troisième point de la triade, c'est l'accompagnement. L'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est la seule manière d'être à l'équilibre, la seule manière de pouvoir s'en sortir en tant que professionnel de santé de façon satisfaisante, et j'espère en tant que malade ou accompagnant de malade, de façon satisfaisante également. Vous verrez, et c'est l'objet de mon propos ce matin, que cette triade est heureuse de mon point de vue et qu'elle permet d'introduire de façon tout à fait ajustée, équilibrée, la dynamique spirituelle. Alors, l'objectif, a priori, de cette triade, c'est la qualité de vie. Quand on dit qualité de vie, on sous-entend qu'au fond, ce n'est pas la quantité qui compte, ce n'est pas des fins de vie qui s'éternisent ou des agonies interminables ou des vies qui se prolongent au risque d'une vraie perte de sens. Je reparlerai de cette perte de sens tout à l'heure. Ce qui compte, c'est la qualité de vie. Mais si la qualité de vie, c'est un projet qui intéresse nos contemporains et dans lequel les médecins rentrent de plus en plus. Quand je dis les médecins, les professionnels de santé, les soignants, quels qu'ils soient, on ne soigne pas pour prolonger la vie, on soigne pour prolonger la qualité de vie. Hein. Ce n'est certainement pas l'objectif ultime de mon point de vue et du point de vue des gens qui réfléchissent à la notion d'accompagnement de maladies chroniques graves. L'objectif ultime, c'est la qualité des relations. On peut s'interroger, est-ce qu'associer les termes qualité et vie sont toujours possibles? Par exemple, quelqu'un qui serait absolument seul, abandonné et méprisé, il vit, est-ce que ça peut s'appeler de la qualité? Je suis obligé d'introduire du coup la notion de lien, de relation, et ce n'est pas du tout anodin, ce n'est pas du tout innocent, c'est tout simplement pour montrer à quel point le principe de base de la dynamique spirituelle se trouve dans le lien et dans la relation, qu'on va pouvoir décliner après. Tout le monde dit, et pas que les chrétiens, que ce qui nous humanise, c'est la relation, et que la relation est humanisante. Ça marche dans les deux sens. Je répondrai aux questions tout à l'heure. Ou tout de suite, d'ailleurs, comme vous voulez. Hein. L'autre nuance à apporter, après cette triade indissociable, c'est que dans tous les cas, on s'inscrit dans une temporalité. C'est-à-dire qu'il y a une chronologie, une progressivité dans le temps de situation. Et d'ailleurs, c'est heureux. Il n'y a rien de plus difficile que de gérer ces questions dans l'urgence. Et là où il y a le plus de dérapage, probablement, et c'est mon point de vue, vis-à-vis de la dérive euthanasique, c'est les services d'urgence. Je ne jette pas la pierre à mes collègues, c'est extrêmement difficile de prendre des décisions dans l'urgence, de faire de la concertation, de pouvoir correctement prendre l'avis, l'état d'esprit d'un entourage familial quand il est présent. L'atmosphère est dramatique, c'est ingérable. Et là, il y a de la dérive euthanasique. Parfois scandaleuse, je dis ça parce que certains des patients qu'on suit, nous, on fait une médecine un peu lente, la gériatrie, on suit des patients pendant des années, parfois 8 ans, parfois 15 ans. Nos malades arrivent par vos services d'urgence et les décisions prises par nos collègues urgentistes, on n'est pas toujours d'accord. Alors, de temps en temps, on est informé que le malade est là, on discute avec les urgentistes qui sont très heureux d'avoir notre regard sur l'histoire, l'environnement familial, les capacités en termes d'indépendance ou de dépendance de patients qui permettent de les éclairer sur des choix qui sont opportuns. Mais il faut aller vite. La temporalité, c'est aussi qu'il y a un avant la phase palliative. Et qu'il y a toute une période un peu floue entre le curatif et le palliatif. Et ça suppose de la compétence pour les professionnels de santé, une compétence à faire des diagnostics qui sont de l'ordre de dans quel état et dans quelle situation, à quelle étape se trouve ce patient dans cette maladie chronique. Technicité. Expérience. La temporalité, c'est aussi qu'il y a un après et que les choses ne sont pas réglées une fois qu'on a pris la décision, y compris de façon collégiale, concertée, tout ce qu'on veut. Tout n'est pas réglé, le patient va peut-être mourir et après sa mort, il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'il reste des vivants. Les vivants sont dans deux catégories, les soignants qui restent et l'entourage familial qui est toujours là. Donc, dans la logique des soins palliatifs et de l'accompagnement, il y a à prendre soin de l'entourage qui reste, de façon très simple, hein, mais il faut le faire, et également des soignants pour ne pas laisser des blessures béantes. Accompagner des malades, accompagner des fins de vie, c'est exigeant, ça peut être blessant. Voilà. Alors je proposerai je vais approfondir maintenant cette question du refus de l'obstination déraisonnable. Le refus de l'obstination déraisonnable, pour moi, c'est un principe éthique. C'est un principe éthique, c'est pas une règle. Comme tout ce qui construit l'éthique, on est orienté et cadré et structuré dans notre pensée par des principes, mais à la différence de la morale, ces principes ne s'imposent pas forcément, et la base même de l'éthique et de l'éthique clinique, c'est justement la personnalisation, l'originalité, la singularité des situations et donc des décisions. On est bien d'accord. Quelques mots sur l'éthique clinique, parce que dans ces structures organisées comme les unités de soins palliatifs ou les structures qui ont des lits identifiés en soins palliatifs, la moindre des choses, c'est de faire une réunion hebdomadaire de l'équipe soignante pour évoquer les situations, et on est constamment dans la discussion éthique clinique. On ne fait pas que ça. L'éthique clinique, ça permet, c'est un outil, je parle des professionnels de santé, des médecins, d'aide à la décision. On a d'autres procédures d'aide à la décision, comme des recommandations professionnelles, comme des consensus scientifiques, et l'éthique clinique, pas que dans la fin de vie, dans le début de la vie en particulier aussi, mais dans beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits de la prise en charge médicale de nos malades, c'est une aide à la décision. Et l'aide à la décision qui a un relent ou une connotation éthique, c'est quand il y a des conflits de valeurs. S'il n'y a pas de conflit de valeurs, il n'y a pas besoin d'éthique. Alors on parlait tout à l'heure, par exemple, de nutrition ou d'hydratation. Alors il y a deux façons de voir les choses. Soit on est très au courant des recommandations professionnelles qui sont données, par exemple, maladie d'Alzheimer en fin d'évolution, au stade terminal, le patient ne communique, en tout cas plus sur le plan verbal, ça peut être dans le non-verbal, manifestement son espérance de vie est inférieure à quelques semaines, faut-il nourrir ? C'est même plus une décision éthique, c'est une recommandation professionnelle. Après, on n'est pas obligé de la suivre. La recommandation professionnelle, c'est simplement qu'il y a eu des scientifiques, je veux dire médecins, infirmiers, psychologues, qui ont fait des réunions et qui ont fait une proposition en disant ça apporte plus d'inconvénients que d'avantages que de nourrir. Voilà. En tout cas, pour revenir à la notion d'éthique clinique, il y a un certain nombre, c'est très cadré l'éthique clinique, je ne vais pas faire le cours, mais cette notion d'éthique clinique prend en compte des choses qui sont obligatoires comme les connaissances techniques, scientifiques, comme la réalité de l'arsenal juridique, selon le pays dans lequel on se trouve. Le juridique, ce n'est pas que la loi, c'est aussi des règlements, des décrets, tout ce qu'on veut. C'est aussi la prise en compte, vous l'avez fait tout à l'heure, de l'arrière-fond déontologique, et puis c'est la prise en compte des convictions. Alors là, on est dans un champ qui s'ouvre. La conviction, c'est les conceptions morales, culturelles, religieuses, à la fois des personnes et de leur entourage, mais aussi des équipes qui soignent. Quand on est quand on se pose la question de prendre des décisions qui engagent la vie ou la mort, on ne peut pas contraindre. On ne peut pas obliger un professionnel de santé à faire quelque chose qu'il ne peut pas moralement faire, qu'il ne sent pas, comme on dit. Donc il y a une place dans l'éthique clinique à l'hésitation, il y a une place et c'est l'objet ultime, à des décisions individuelles, individualisées, et qui ne s'imposent pas à tous. Sinon c'est la morale, ou la loi, comme vous voulez. Alors, les principes qui nous conduisent, il y en a un certain nombre, mais les principaux sont en nombre de quatre. Et le premier est sujet de débat. Le premier, c'est le principe d'autonomie. Le deuxième, c'est le principe de bienfaisance. Le troisième, c'est le principe, je le redirai, de non-malfaisance. Le quatrième principe dont je veux parler aujourd'hui, c'est le principe de proportionnalité. Le principe d'autonomie, ça consiste à prendre en compte l'autre dans toute son altérité. Lui, c'est pas moi, et moi, je suis pas lui. Prendre en compte l'autre dans toute son altérité, et tout acte qui pourrait entraîner des conséquences pour autrui est subordonné à son consentement. L'autonomie, ça suppose de prendre, d'obtenir le consentement d'une personne qu'on prend en charge. Le principe de bienfaisance, c'est que toute action doit tendre vers la réalisation du bien, mais le bien selon la conception du bien d'autrui. C'est-à-dire que ce n'est pas ma conception du bien, c'est la conception du bien de l'autre. Donc ça demande un effort, ça. Le principe de non-malfaisance, ensuite, c'est que les bénéfices doivent l'emporter sur les maux, mais je m'interdis de faire ce que l'autre considère comme bien si j'y décèle une nocivité. Ça relativise, hein. L'autre dit, ça c'est bien pour moi, je le veux. Si je considère que c'est pas bien pour lui, alors pour lui c'est bien. Je ne suis pas censé aller dans ce sens. La non-malfaisance. Et puis le principe de proportionnalité qui rejoint largement cette histoire de refus d'obstination déraisonnable, c'est, alors en fin de vie, arrêter l'emploi de techniques qui prolongent la vie, on a parlé de la réanimation tout à l'heure, hein. Si ces techniques apportent plus de souffrance que d'avantage, mais ce n'est pas seulement dans les traitements, c'est aussi dans les investigations diagnostiques, et c'est spécialement vrai chez des gens très vulnérables physiquement ou des gens très âgés. Je vais faire une investigation diagnostique invasive, douloureuse, à risque. Une fois que j'aurai le résultat de cet examen, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que ça va changer pour la personne? Si ça ne change pas grand-chose, faut-il ou prendre le risque de faire souffrir ou de menacer la santé de la personne, la proportionnalité. La proportionnalité, c'est aussi donc au niveau thérapeutique, mais cette question se pose pas seulement en fin de vie, ça se pose à tout moment. Quand on décide une chimiothérapie ou une radiothérapie chez un patient cancéreux, aujourd'hui, il y a une discipline qui s'appelle l'oncogériatrie, qui permet d'évaluer les risques à utiliser cette technique dite efficace, mais qui présente des risques. Voilà. La proportionnalité. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des demandes d'euthanasie? Eh bien, ça dépend. Le sujet est un peu compliqué. Mais en tout cas, d'où viennent les demandes d'euthanasie, s'il y en est? Elles viennent rarement des personnes. Moi, je pense plutôt que c'est moins de 3%. Mais bon, admettons. Elles viennent beaucoup de l'entourage. Beaucoup, beaucoup de l'entourage. Alors, on peut se poser la question du pourquoi, et on peut l'imaginer. C'est la souffrance de l'entourage, clairement. Ce n'est pas le désir d'éliminer un proche. C'est à peu près évident. Alors après, je voulais dire que un constat qu'on peut faire, c'est pas moi qui le fais, c'est la littérature qui dit plus les soignants, plus les médecins sont proches des patients en phase terminale, moins ils sont favorables à l'euthanasie. Plus les médecins, plus les soignants sont formés à ces aspects qui sont les soins palliatifs et l'accompagnement, moins ils sont favorables à l'euthanasie. Ça signifie que s'il y a un travail à faire, il n'est pas seulement sur le plan législatif, il est aussi sur le plan de la formation, qui est une formation technique et une formation humaine des professionnels de santé que nous sommes. Le deuxième point que je vais évoquer maintenant, c'est le deuxième point de la triade, c'est-à-dire les soins palliatifs. Soins palliatifs, ça se pose quand, autrefois on disait, quand soigner n'est plus guérir. Aujourd'hui, on ne dit plus ça, puisque les maladies chroniques, on ne les guérit pas. Soins palliatifs, finalement, ça se pose quand on sent, quand on a des arguments pour penser que la phase de la maladie est une phase terminale, et surtout, qu'il y a des symptômes d'inconfort. Donc là aussi, il faut acquérir des compétences pour faire le diagnostic de ces symptômes d'inconfort et aussi pour les prendre en charge en termes de soins ou de thérapeutiques. Ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Quand on prend en charge des symptômes d'inconfort en fin de vie, on est la plupart du temps en dehors des autorisations de mise sur le marché des médicaments. C'est-à-dire qu'on fait des cuisines qui sont consensuelles au niveau mondial, mais qui sont parfois l'usage dérivé de médicaments. C'est comme ça. Pas toujours, mais c'est comme ça assez régulièrement. Donc je reviens à la question évoquée tout à l'heure, mais soins palliatifs, c'est pour faire face donc à la souffrance. De quelle souffrance parle-t-on, en effet? J'ai parlé des symptômes d'inconfort. Pourquoi faut-il prendre en charge les symptômes d'inconfort? Il y a une réponse fondamentale, c'est que ces symptômes d'inconfort, douleur, essoufflement, de troubles du transit, etc., empêchent d'exister, paralysent la pensée, parasitent la dynamique psycho-affective et spirituelle. Vous voyez, avant même d'évoquer la question du bien-être, évidemment, ça va de soi. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? D'ailleurs, il y a tout simplement que la personne est vivante et qu'il faut l'aider à vivre. Et vivre, c'est exister en termes de fonctionnement intellectuel autant que possible, vie affective autant que possible, vie relationnelle autant que possible. Alors, j'ai appris que Pie XII avait dit des choses un petit peu comme ça, hein. La souffrance, c'est aussi la perte d'espoir, l'absence de projet, la béance de sens, qui fait rentrer assez facilement, assez logiquement, dans ces logiques mortifères, qui disent, puisque ma vie est absurde, puisque la vie vécue est absurde, autant choisir le néant. Une position binaire, simpliste. Parce qu'il y a matière à répondre à l'absurdité, ça existe la vie absurde, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais en général, la vie absurde, c'est la vie seule, la vie solitaire. Donc la manière de répondre à l'absurdité, c'est d'introduire la relation. Et je parlerai tout à l'heure de la responsabilité des soignants. La deuxième souffrance, en effet, c'est la solitude et l'abandon, et ce sentiment d'abandon. Quand on dit abandon, il ne faut pas trop vite conclure que le patient est victime d'abandon. Parfois, le patient a abandonné lui. Et puis, quand il se retrouve en situation de vulnérabilité extrême, il paye sa stratégie d'avoir abandonné. Dans ces situations d'accompagnement de fin de vie, les enjeux familiaux sont majeurs. Ou en tout cas, les questionnements familiaux sont majeurs. Alors, voilà, c'est pour ça que je fais cet aparté. Sans vouloir y mettre trop de poids, on prend soin d'un patient, on l'accompagne au mieux, il n'est pas que victime. De temps en temps, il a abandonné et il se retrouve seul. Voilà. Et le dernier point d'attention à propos de la souffrance, de quelle souffrance parle-t-on? On souffre beaucoup aussi du regard que les autres portent sur nous. Et qu'est-ce qui fait que je me sens indigne? C'est parce que les autres me regardent comme indigne. Ce n'est pas la seule explication, mais c'en est une. Qu'est-ce qui fait que je veux mourir? C'est parce que j'ai honte. Honte d'être là, d'embêter tout le monde. Je fais des raccourcis, hein. N'empêche que si la majorité de la souffrance n'est pas liée à des symptômes d'inconfort, il faut absolument être efficace dans la prise en charge de ces symptômes d'inconfort. Et donc ça, c'est de la technique médico-soignante. Le troisième point du triptyque, c'est l'accompagnement. Je parle du point de vue du professionnel de santé seulement, pour dire un certain nombre de choses sur l'accompagnement. L'accompagnement signifie la dimension relationnelle, j'insisterai encore là-dessus, et également sur la valeur engagement. Moi, je tire mon chapeau aux équipes soignantes, pour leur générosité et leur engagement. Je me demande parfois où est-ce qu'elles trouvent la ressource. Voilà, de cette humanité donnée. Et j'introduirai tout à l'heure la notion d'affectif, j'insisterai là-dessus. Il y a de l'affect, il y a un affect professionnel, moi je suis impressionné. L'accompagnement, c'est ça. Et l'accompagnement n'est pas seulement le colloque singulier, c'est-à-dire le malade et quelqu'un d'autre, qu'il soit professionnel de santé, qu'il soit de la pastorale de la santé, psychologue ou de l'entourage familial. Mais les choses ne se passent de façon plus construite, plus complexe, c'est-à-dire que il y a un véritable accompagnement d'équipe. Par exemple, la psychologue va prendre un peu de temps avec un patient. L'aide-soignante va prendre aussi du temps avec un patient, pendant son soin. Le médecin, bien sûr. Et chacun recueille quelque chose qui est censé faire du bien à la personne. On n'est pas tous dans la parole, je veux dire. Hein. La relation n'est pas que la parole. On ne demande pas à l'aide-soignante de prendre une demi-heure de conversation avec un patient. Si elle a le temps et qu'elle le fait, c'est bien. Mais on ne lui demande pas ça, ce n'est pas son travail. Mais son travail est pourtant précieux. C'est du soin, c'est du prendre soin, c'est du confort, et il se dit des choses. Et on se réjouit ensuite, quand on se retrouve dans les réunions hebdomadaires, non pas de trahir des secrets, hein, on n'en a pas besoin, mais de pouvoir faire la synthèse, et de s'écouter les uns les autres. Pourquoi ? Pour mieux connaître la personne. Pour mieux connaître quels sont ses besoins et comment se profile son avenir. Quels sont les enjeux de vie ? On n'est pas dans l'accompagnement à la mort, on est dans l'accompagnement de la fin de vie. Et alors, le fait de connaître mieux une personne, son histoire, ses liens familiaux, un certain nombre de choses de sa vie, passées et actuelles, reconstruit, s'il en était nécessaire, son visage humain. Parfois, c'est nécessaire de reconstruire un visage humain. Moi, je suis très engagé dans l'accompagnement des patients Alzheimer. Et je vous assure, dans certains cas, en fin de vie, je me demande, parce que je suis honnête, si c'est encore humain. Voilà. Il y a de temps en temps des spectacles de déchéance. Et en dehors des démences aussi. Hein, certaines plaies cancéreuses, cutanées, je veux dire, hein, ou ulcérées, qui sentent mauvais, qui sont repoussantes, y compris pour des soignants habitués. Il y a parfois besoin de se ressaisir et alors de pouvoir, comme ça, connaître un peu mieux l'environnement et l'histoire de la personne, ça change notre regard sur elle. C'est clair, ça change notre regard sur elle. Et voilà, clairement, comment répondre à la question de l'indignité ou de la dignité ? Je peux vous dire que dans ces services où on a fait le choix de s'investir pour accompagner des patients sans palliatif, la question de l'indignité ne se pose jamais. On se donne les moyens pour connaître les gens, et quand on les connaît, la question ne se pose pas, tout simplement. Après la dimension relationnelle et l'accompagnement, je voudrais dire élargir un petit peu pour parler de la solidarité humaine. Et à propos d'unité, justement. Il s'agit, au fond, de considérer ou de faire la promotion de la dignité de chacun, mais aussi de la dignité de tous. C'est-à-dire que si par hasard je considérais que un est indigne, qu'en est-il de tous ? On met le doigt, hein ? Je vous parlais tout à l'heure de mots importants, de brèche, c'était le mot, je ne sais plus ce qu'il était. De brèche, je considère que c'est une brèche. Si on considère que certaines vies sont indignes, même très minoritaires, qu'en est-il de la collectivité humaine ? Donc on est dans les questions de société. L'individualisme dans lequel on est aujourd'hui ne doit pas nous faire oublier que nous sommes responsables ensemble, interdépendants, et nous faisons partie d'une collectivité, d'une communauté humaine. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la relation qui humanise. L'humanité existe en tant que groupe, en tant que communauté. Qu'est-ce qui construit l'humanité? C'est les liens entre nous. Qu'est-ce qui défait l'humanité? C'est peut-être un certain individualisme forcené, une prétention à l'autonomie forcenée, qui remet en question les solidarités et qui met sur le mot « compassion » un sens assez complètement discutable. Bon. Je suis heureux de voir que les textes produits en France par un certain nombre d'instances soutiennent encore aujourd'hui cette vision de la société, qui est une société solidaire. Par exemple, un rapport de l'Assemblée nationale en 2005 a pour titre « Solidaire devant la fin de vie ». C'est sympathique que les députés mettent ça en titre d'un document. Ou alors le Comité consultatif national d'éthique, je pense que c'est le document que vous avez cité tout à l'heure, parle, je crois bien que c'est le titre, de, je ne sais plus, parle d'engagement solidaire, oui c'est ça, engagement solidaire, exception d'euthanasie. L'engagement solidaire, c'est quand même les deux premiers mots. Hein. Faire face ensemble à l'inéluctable. Sollicitude et compassion. Invitation à la sensibilité et à la solidarité. Et surtout, partage d'une commune condition. Une commune condition, c'est notre condition humaine. Et je dirais tout à l'heure que cette condition humaine est particulièrement vulnérable. Elle est en danger. Tout à l'heure, je parlais des soignants qui m'impressionnent dans leur engagement. Et je suis impressionné aussi par ces milliers de bénévoles d'accompagnement dans un certain nombre d'associations et de fédérations, dont le nombre augmente d'année en année. Ça fait plaisir. D'un côté, on parle d'individualisme, on fait ce constat. D'un autre côté, on voit ces gens qui se lèvent au nom de leurs valeurs, au nom de leur temps disponible peut-être aussi, et qui viennent faire de l'accompagnement bénévole dans toutes sortes de structures, hospitalières, maisons de retraite ou même à domicile. Comme si, dans leur esprit, il y avait cette conviction de la haute valeur intrinsèque de la vie humaine. La haute valeur intrinsèque de la vie humaine. Quant à nous, professionnels de santé, nous sommes aussi concernés par la solidarité. L'engagement, c'est évident. Mais la solidarité aussi. Et nous sommes concernés par une solidarité de type social. En quoi ? Nous sommes missionnés par notre société dans un système de santé pour prendre soin, le mot ressort, d'un certain nombre de personnes qui sont malades sous la forme d'une solidarité concrète. Elle est très concrète, cette solidarité. C'est non seulement du temps et de l'énergie que nous y mettons, mais c'est pas mal de milliards d'euros qui est le budget de l'assurance maladie. Ça, c'est de la solidarité. Comment est-ce qu'on pourrait nous missionner, la même société, sur la base d'une loi, pour considérer que cette solidarité sociale est devenue vaine à partir d'un certain moment, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un demande à mourir? Ça me dérange. C'est pas clair? On nous invite à la solidarité concrète, il y a de l'argent sur la table. Comment est-ce que demain, dans certains pays c'est le cas, hein, on pourrait nous missionner, c'est une mission si elle est légale, si la loi se prononce, pour aller à l'encontre de cet engagement solidaire. Voilà. Alors, s'il y avait quelqu'un de la DMD ici, il aurait des arguments, hein, mais on va pas... Je dis les choses de façon brute. Probablement que ces gens qui font la promotion du droit à mourir, soi-disant dans la dignité, disent que c'est par solidarité. Je les attends. Derrière la prise en charge soignante, il y a un point hyper important qui est le principe de confiance. Et encore une fois, notre responsabilité en tant que professionnel de santé est engagé sur ce terrain qui est le terrain de la confiance. La confiance, c'est la confiance dans un pacte de soins. Le pacte, il n'est pas écrit, il est implicite. Les personnes nous confient leur santé, nous confient leur vie, c'est qu'elles ont confiance. Même si il y a une tendance aujourd'hui à être dans la défiance, pas seulement à l'égard des médecins, les enseignants, la police, les politiques, c'est tout le monde. Hein. Malgré tout, au quotidien, sur le terrain, je ne sais pas quel est votre sentiment, on a la chance de pouvoir être dans des relations de confiance, pas des relations toujours simples, hein, mais en tout cas, globalement, les gens attendent de nous. Qu'on soit soignant, c'est pas pour une question de savoir, hein, c'est une question de... on est missionné pour ça, quoi. On est missionné pour ça. Et en effet, derrière ce principe de confiance sur lequel on s'appuie pour prendre en charge des personnes malades, il y a cette évidence qui est le médecin est celui qui jamais ne donne la mort. Voilà, c'est pas notre boulot. Et pourtant, on le fait. Et pourtant, si on ne donne pas la mort, en tout cas, on est responsable de la mort assez régulièrement. On n'est pas tout puissant. On peut se tromper. On peut faire le choix de prescrire des thérapeutiques dangereuses dont les effets indésirables sont parfois dramatiques. Oui, les médecins, on a presque tous des morts sur la conscience. Je veux dire par là, notre responsabilité est d'engager dans l'issue fatale. Alors, d'une certaine manière, ça veut dire qu'on est familier de la mort et que pousser une seringue pour faire partir quelqu'un qui est déjà bien fragilisé, c'est pas beaucoup plus en niveau technique hein, que ce qu'on fait régulièrement. Je dis ça pour nous faire peur. Et en même temps, moi je crois que un des principes qui doit nous tenir comme un principe éthique au fond, c'est la notion que les gens nous donnent leur confiance. Et à partir du moment où on considère qu'un médecin peut donner la mort, je crois que ça peut fragiliser énormément l'image des soignants ou des médecins dans la population générale. Ce n'est pas un service qu'on rend à notre société. Si certains veulent donner la mort, ils n'ont qu'à le faire, mais pas les médecins. Voilà. Derrière la notion de confiance, il y a aussi ce principe de consentement que j'évoquais déjà tout à l'heure, à propos d'autonomie. Hein. Je voudrais aborder une perspective chrétienne, qui est ma réflexion personnelle. Je suis très habité depuis un certain nombre d'années par comment décliner, d'autres l'ont fait, mais je ne m'y retrouve pas, donc j'ai travaillé, la notion de dynamique spirituelle, sans évacuer la notion de relation à Dieu et d'existence de Dieu, parce que tout le monde croit à une dimension spirituelle, mais ça existe aussi sans Dieu, paraît-il. Comment décliner cette dynamique spirituelle en termes un petit peu universels? Alors voilà, j'ai fait deux livres, un premier en 1997 qui s'appelait « Guérir », repères spirituels dans la maladie et la souffrance. Et ce deuxième ouvrage qui est plus récent, qui date de l'année dernière, la souffrance spirituelle au cours de la maladie d'Alzheimer. Alors pourquoi la maladie d'Alzheimer? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est mon domaine principal. Et la deuxième, c'est que l'image va peut-être vous choquer. La maladie d'Alzheimer, c'est une circonstance où c'est comme si on ouvrait le capot de la voiture et qu'on voit dans le moteur. On ouvre le capot des fonctions cognitives et on sait un petit peu mieux ce qui se passe dans notre cerveau. Or, la relation à Dieu, la représentation de Dieu, l'amour, le sens, c'est quand même principalement sous la boîte crânienne que ça se passe. Ça pose des questions anthropologiques profondes. Et je crois que cette maladie fait souffrir spirituellement aussi. Quelle perspective chrétienne? Premier point, nous sommes des êtres vulnérables. Et cette vulnérabilité ne doit pas être regardée comme une tare, mais à la fois comme une opportunité et à la fois comme un danger. J'insisterai sur l'opportunité parce que le danger, vous le voyez tout de suite. Et je dirais même aussi, j'ose le dire, mais je ne l'argumenterai pas tout de suite, que Dieu choisit d'être vulnérable. Juste un petit point pour vous éclairer un peu à ce sujet. L'amour de Dieu pour nous, c'est la preuve de sa vulnérabilité. Parce que cet amour, il est compassion. Cet amour, il est être mal dans sa peau et dans son cœur quand il nous voit dans la détresse. Dieu est vulnérable. Ce n'était pas le propos de ce matin, donc j'insiste pas. Mais en tout cas, le fait d'être vulnérable, c'est la capacité à être affecté. Affecté, ça c'est l'opportunité et la chance. C'est aussi la possibilité d'être blessé. Et blessé, c'est le risque et le danger. Beaucoup de circonstances de nos vies et ces maladies chroniques d'évolution inéluctable affectent la personne malade, affectent l'entourage. Ça mobilise et ça suscite des peurs, ça diminue des capacités, ça affecte. Cette vulnérabilité, c'est la seule raison pour laquelle on est motivé pour être en relation. Il n'y en a pas d'autre. Parce que si on appelle relation le fait d'avoir de l'information, ça ne marche pas ce que je dis. Mais moi, je n'appelle pas ça relation. On va dire communication, si on veut. La relation, c'est je suis en relation parce que j'ai besoin de l'autre ou parce que l'autre a besoin de moi. Et ça s'appuie sur ma vulnérabilité, sur notre vulnérabilité qui est le cœur de notre condition humaine et qui est une chance. Si je prie Dieu, c'est parce que je suis vulnérable. Et peut-être que si je prie Dieu en m'attendant à ce qu'il me réponde, c'est parce que je sais qu'il est vulnérable. S'il était indifférent, je ne le prierais plus. Je vous emmène un peu loin, là. Alors, moi, sur la vulnérabilité, je pourrais parler 2 heures. Je vais essayer de me limiter un peu. Mais en tout cas, je vais énoncer un certain nombre de choses qui découlent de ce principe. C'est la sensibilité, la fécondité, la créativité, l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à pouvoir deviner dans quelle disposition de cœur se trouve l'autre. Dans l'accompagnement, on est obligé d'avoir de l'empathie. Et l'empathie, ça s'apprend aussi un peu. Et Dieu n'est-il pas empathique? Il sait exactement où j'en suis, dans ma détresse ou dans mon bonheur. Voilà. Il y aurait tout un développement à faire sur l'Épître aux Éphésiens à ce sujet, mais en tout cas, puis je vais passer là-dessus, voyez que ça nous introduit à des perspectives anthropologiques. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous constitue? Où est-ce qu'on va? Et l'anthropologie biblique, je m'y suis un petit peu attaqué, se nourrit, je suis sûr qu'elle se nourrit, non seulement des réflexions philosophiques contemporaines, mais aussi des découvertes scientifiques qui concernent les sciences cognitives. Donc c'est l'objet de ce livre, sciences cognitives et anthropologie chrétienne. C'est un des objets. Comment définir les besoins spirituels ? Pour moi, le moteur de notre condition d'être humain, c'est le désir. Et pas que pour moi, pour les psychanalystes aussi, et pour beaucoup de gens, et pour les philosophes aussi. De quel désir parle-t-on ? En tout cas, nous sommes des êtres de désir. De quel désir parle-t-on ? En fait, moi, je propose de décliner ce mot désir en 4. Le désir qui nous intéresse le plus, c'est le désir aspiration. J'aspire à être sauvé, par exemple. J'aspire à être aimé. C'est ça le désir spirituel. Il est fragile et il est puissant en même temps. Fragile et puissant. Fragile, nous sommes vulnérables. Puissant, il demeure. Même quand la condition physique d'une personne est gravement abîmé. Ensuite, il y a, en partant du plus noble au moins noble, hein, j'ai oublié, le désir-projet, qui répond à la dimension du cœur dans la Bible. Après, il y a le désir-besoin, qui répond à la dimension de l'âme dans la Bible. Et puis, il y a le désir-envie, qui n'est pas loin de la pulsion, et qui répond à la notion de chair dans la Bible. Nous sommes des êtres de chair, et chair ne signifie pas tant le corps que ma condition de vulnérabilité. Bien sûr que la chair, c'est le corps aussi, mais même en dehors du corps, c'est la condition de vulnérabilité. Alors ce désir, aspiration, c'est quelles aspirations? C'est un désir d'amour. En premier, c'est un désir d'amour. Besoin d'aimer, besoin d'être aimé. Ce terme amour, il fait tâche dans le mouvement des soins palliatifs et d'accompagnement. On ne le voit jamais ou presque jamais écrit. Pourquoi? Parce qu'il est connoté religieusement. Charité, voilà, charité. On ne veut pas la charité dans ces milieux-là. Et pourtant, on en vit tout le temps. Alors, il faut l'écrire autrement. Pour l'écrire autrement et pour que ça passe, il ne faut pas appeler ça l'amour, il faut appeler ça l'engagement et la solidarité, par exemple. L'attention à l'autre, ça passe. Le deuxième volet du besoin spirituel de base qu'est le désir, c'est le besoin de sens ou le désir de sens. Se situer dans mon aujourd'hui, me situer dans mon aujourd'hui, pouvoir avoir conscience d'une identité qui est la mienne, avec mon histoire personnelle, pouvoir me situer. Alors l'identité, elle se nourrit du regard de l'autre, je reviens sur le regard. Qu'est-ce qui fait que... Comment je sais que j'existe? Je sais que j'existe parce qu'on me parle. Si personne ne me parle, je n'existe pas. On parle au sens large. Vous voyez à nouveau que dans la notion de sens, le principe des relations est vraiment inscrit fortement. Le sens, c'est aussi avoir de la consistance, avoir une fécondité. Comment peut-on parler de fécondité sur un lit qui va être le mien pendant encore quelques jours ou quelques semaines avant que je m'en aille de cette terre? Quelle fécondité parle-t-on? Oui, c'est clair. Les relations sont fécondes. Quand les soignants se disent « mais c'est le moment d'appeler ce fils qui n'a pas vu son père depuis 20 ans », lui dire « si vous voulez voir votre papa, c'est maintenant, il faut venir ». Et je donne un exemple un petit peu, prototypique. Ce papa qui est sur son lit et qui n'en finit pas de mourir. On le voit tellement régulièrement. Il ne devrait plus être là. Il est toujours là, demi-conscient. Et puis voilà que le fils vient et le lendemain, il meurt. C'est classique ça, hein? Fécondité, même en fin de vie. Bon, je crois qu'il faut que je m'arrête, hein. N'est-ce pas? Je dirais juste pour conclure, il y a des termes ou des principes qui résonnent spirituels. Et je voudrais vous dire lesquels. J'aurais même bien écrit, mais voyez, vous allez l'imaginer. D'un côté, on met l'individualisme. L'individualisme, ça ne résonne pas très spi. Hein. Ça résonne... séculier, on va dire, je ne sais pas comment dire. Et en face d'individualisme, on va mettre un autre terme qui va bien mieux. Singularité. La singularité. Je suis unique aux yeux de Dieu. Ce n'est pas de l'individualisme, c'est de la singularité. Les décisions qui vont m'être proposées peuvent être des décisions personnalisées. C'est ça l'éthique clinique. Singularité. La ligne en dessous, on mettra autonomie en tant qu'indépendance, voire défiance. Autonomie en tant qu'indépendance, voire défiance. Ça ne résonne pas très spirituel. Parce que l'autonomie en tant qu'indépendance, c'est rien d'autre que qu'une définition du péché. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur, je suis indépendant, je suis autonome, je n'ai pas besoin de toi. Et puis en face, on mettra une autre autonomie. L'autonomie en tant que libre arbitre. Je peux prendre des décisions libres à cause de mon autonomie. Ça, c'est une autonomie qui résonne spirituelle. Troisième ligne, je mettrai d'un côté la maîtrise de ma propre vie qui a une coloration de toute puissance, prétention à la toute puissance, la maîtrise. Je crois qu'aujourd'hui, le mouvement qui fait la promotion du droit à l'euthanasie n'est rien d'autre que ça. Maîtriser ma vie, choisir quand je veux mourir. Ça ne résonne pas très spirituel, cette toute-puissance-là. En face, on met un autre genre de maîtrise. Non, ce n'est pas exactement ça. En face, on mettra un autre terme qu'on dira la confiance, j'évoquais tout à l'heure. La confiance, l'interdépendance les uns des autres, la collectivité humaine. Au risque qu'on prenne mal soin de moi. Et quand on se marie au risque que l'autre nous trahisse, hein ? La confiance. Ça, c'est raison spi. Et puis, dernière ligne, je mettrai d'un côté la solidarité de ceux qui, par compassion, vont dire « il faut aider à mourir ». C'est une solidarité qui souffre. Leur compassion, elle est douleur. Et en face, on mettra une autre solidarité. C'est une solidarité qui se ressource. D'un côté, la solidarité qui souffre, c'est un accompagnement individuel des solitudes partagées. Bon, le terme, je viens de l'inventer. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a la notion d'équipe. J'accepte le regard de l'autre sur ma pratique, sur mes options, sur mes convictions. On s'enrichit les uns les autres grâce à nos différences. L'infirmière me dit des choses que moi je ne sais pas ou que je ne conçois pas, etc. On s'enrichit et voilà une autre solidarité qui se ressource. Et là, entre chrétiens, on peut se dire, mais oui, on se ressource aussi du Seigneur. Voilà, bon, donc, merci beaucoup de votre attention.